et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous contemplons la Sainte Famille dans une action importante. Elle se présente au Temple pour consacrer son Fils et deux révélations tout à fait extraordinaires vont être faites par deux prophètes, une femme et un homme, vont être faites à ses parents au sujet de leur enfant. Alors je vous propose de voir d'abord la purification et la consécration, et ensuite de voir ce qui est concerné par l'annonce de ces prophètes, qui est l'œuvre de la rédemption. Tout d'abord, purification et consécration. Eh bien finalement, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît, parce que Saint Luc a mélangé avec un savant art la purification de Marie et la présentation de Jésus. En fait, ce sont deux choses différentes. Mais si on entend le texte, normalement, ça n'a pas dû vous choquer. Il est question de la purification. On ne sait pas de qui. En fait, en grec, c'est marqué leur purification, c'est-à-dire aux deux. Mais le Seigneur Jésus n'a pas besoin d'être purifié. Il a besoin d'être racheté, selon la loi juive. Et donc, il y a un mélange qui est fait exprès et qui a pour but de mêler très intimement la Vierge Marie à son Fils. Pour être bien clair, normalement, dans la loi juive, la Vierge, enfin la femme, la mère, se présentait pour être purifiée, et puis, à cause du sang, qui est impur dans la religion juive, et d'autre part, le premier-né était offert, c'est-à-dire racheté. On offrait pour la mère deux colombes ou deux tourterelles, et on offrait pour le fils 5 cycles d'argent. Or, vous avez vu ici, il n'est pas question d'argent, il est juste question des tourterelles. Donc, c'est bien la purification de Marie, mais en même temps, on présente Jésus au temple. Effectivement, Jésus n'a pas besoin d'être racheté parce qu'il n'est pas un fils d'Adam, il est déjà le fils de son père, il est déjà saint, il n'a pas besoin de ce rachat. Alors, on va voir dans un deuxième temps pourquoi il se soumet quand même, finalement, à la loi de Moïse. Ici, c'est vraiment la purification de Marie et la présentation de Jésus. Il y a une insistance très forte, en fait, plus que sur la purification, ou plutôt la purification est un moyen, pour mettre en avant la consécration. La prophétesse Anne nous en donne un signe. Anne, qui a 84 ans, vous avez remarqué, les chiffres ne sont pas anodins dans la Bible, elle est restée mariée 7 ans, elle a 84 ans, c'est-à-dire 7 fois 12, 12 c'est le chiffre biblique des tribus d'Israël, c'est le chiffre symbolique de la prière, 7 c'est le chiffre de la création. Selon l'ordre humain, elle a été mariée 7 ans, selon l'ordre de la consécration, elle a été 6 fois consacrée 7 ans. Le temps qui est le sien, c'est celui de la consécration. D'ailleurs, elle vit à côté du temple, il semble qu'elle y soit toute proche. Elle était là quand on a présenté Jésus. Et oui, la prophétesse Anne, plus encore que dans ce qu'elle dit, même si elle va dire quelque chose d'important, c'est dans ce qu'elle est qu'elle préfigure la consécration du Christ lui-même et notre propre consécration. Dès le début de l'Église, l'ordre des veuves et des vierges consacrées a été très important. Il commence ici, peut-être d'un point de vue historique, on pense qu'il a commencé dans les communautés de Qumran, c'est-à-dire autour de Jérusalem. En tout cas, Anne, en accueillant le Christ, elle-même est consacrée et elle note que c'est une consécration dont il est question ici. Le Seigneur va vivifier cette consécration, va sanctifier le monde, c'est ça sa première action. Partout où il passe, il n'y a plus de péché. Souvenez-vous, dans tous les évangiles, à chaque fois qu'il s'approche des pécheurs, il n'y a plus de péché. À chaque fois qu'il s'approche des pécheresses, il n'a plus de péché. Le péché ne peut pas le toucher. Il est le saint des saints. D'ailleurs, c'est ce que dit Siméon, on l'appellera saint. Voilà ce point très important. Aujourd'hui, ce que nous fêtons d'abord, c'est la consécration. Et pour nous, qui vivons consacrés au Seigneur par notre baptême, eh bien, nous voulons raviver, chacun selon notre état, les religieux, bien sûr, qui offrent parfaitement leur vie entièrement, mais aussi les prêtres et aussi les laïcs qui sont baptisés eh bien, veulent consacrer quelque chose de leur vie, sinon toute leur vie au Seigneur, selon la vocation qui est la nôtre, chacun en ayant une différente, selon notre état de vie. Voilà ce que nous faisons en venant consacrer cette heure hebdomadaire au Seigneur, cette à la messe hebdomadaire, nous venons lui consacrer une heure, signe de notre propre offrande à Dieu. Nous ne venons pas simplement chercher quelque chose, nous venons d'abord nous apporter nous-mêmes, signifier que nous aussi, nous voulons nous livrer au Seigneur, et nous le faisons déjà physiquement, matériellement, durant l'heure où nous prions le Seigneur. Voilà, ça c'était le premier point, la purification qui amène à la consécration, cette consécration ne pouvant être parfaite qu'une fois purifiée, évidemment, par le Christ qui nous agrège à lui. C'est ce qu'il va faire dans un instant dans l'Eucharistie, soit que vous soyez bénis, soit que vous communiez, vous allez vous introduire dans le corps saint du Seigneur et devenir à vous-même une véritable offrande. Mais il y a plus, évidemment, et c'est ce que vont nous révéler l'action que posent les parents de Jésus et les deux prophètes. Qu'est-ce que fait le Seigneur dans le temple pour être racheté, pour être présenté, pour être surtout soumis à la loi, lui qui est l'auteur de la loi? Il n'a pas besoin, il n'a pas de péché en lui, il n'est pas touché par aucun péché, et il ne péchera pas, il ne peut pas. Le péché, c'est le contraire de Dieu, c'est l'absence de Dieu, il est Dieu lui-même. Alors que vient-il faire dans ce temple? Eh bien, il vient y commencer son œuvre de salut. Il vient y manifester que Dieu est venu parmi nous pour nous sauver. En se soumettant à la loi, il continue, comme le dit saint Bernard, il continue simplement ce qu'il est venu faire dans la crèche, ce qu'il fera au temple, ce qu'il fera sur la croix. Il vient opérer le salut du monde, il vient se livrer tout entier, toute sa vie, jour après jour, acte après acte, pour être à nous, complètement, dans l'humanité. Voilà ce qu'il fait en se laissant présenter au temple, en venant lui-même être une offrande. Il préfigure cette offrande que nous avons contemplée dans la crèche, dans une mangeoire, c'est-à-dire se donner à manger. Eh bien là, il se donne à contempler, il s'offre lui-même, il offre entièrement sa vie, déjà ici, dans la présentation. Et Siméon ne s'y trompe pas, il va prophétiser que c'est lui le Messie, sera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, il sera la pierre, c'est-à-dire la pierre incontournable, celle qu'on ne peut pas éviter, c'est lui le Christ. Mais il va faire une révélation particulière à Marie. Il va lui dire « Un glaive te transpercera le cœur. Toi, un glaive te transpercera le cœur. » Et tous les pères de l'Église qui ont commenté ce passage se sont rendus compte combien, d'une part, évidemment, c'est la prophétie au pied de la croix, le Christ ayant le cœur transpercé par une lance, sa Sainte Mère, au pied de la croix, a elle aussi eu, n'est pas de douleur plus grande pour une mère que de voir son fils transpercé de part en part, elle-même a ressenti intimement. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement de l'ordre sentimental, même si, évidemment, c'est très important, une douleur extrême. C'est qu'elle-même accepte cette prophétie. Elle accepte, puisqu'on va dire ensuite qu'elle s'en retourne en méditant les choses dans son cœur, elle accepte qu'un glaive lui transperce le cœur. Elle accepte de coopérer à l'œuvre de salut que le Seigneur va poser. Le pape qui est allé le plus loin, peut-être, dans cette disposition, c'est le pape Jean-Paul II. Le saint pape Jean-Paul II a noté dans son encyclique sur la rédemption que Marie s'est unie d'une manière ineffable et particulière, intimement, à l'œuvre de la rédemption de son fils. C'est-à-dire que Marie n'a pas arrêté sa mission après l'enfantement de Jésus. Elle l'a accompagné sur le chemin de la rédemption, elle s'y est associée elle-même, elle-même est co-rédemptrice. J'ai lâché le mot difficile qui fait débat, mais si Marie coopère avec la rédemption du Christ, elle qui n'est qu'une femme, ce n'est pas d'elle que vient le salut, c'est de Dieu. Cela veut dire que vous aussi, si vous vous unissez aux souffrances du Christ, si vous vous unissez à la mission du Christ, vous aussi, vous allez coopérer à la rédemption du monde. D'abord à la vôtre, à votre propre salut, et ensuite à celui du monde. Notre action n'est pas l'action de gens passifs qui passent dans le monde en espérant être sauvés. Non. Notre action est importante. Notre action, c'est l'union à la rédemption opérée par le Christ. Le Saint-Père François a rappelé il y a 3 semaines qu'en assistant à la messe, c'est d'abord au calvaire que l'on assiste. C'est-à-dire que c'est aux souffrances du Christ que vous venez communier. Ainsi, vous offrant vous-même dans cette croix du Christ qui sauve le monde, vous aussi, vous devenez les acteurs de la rédemption du monde. Bien sûr, par grâce de Dieu, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas ceux qui sauvons le monde, nous coopérons au salut que Dieu a opéré, nous sommes les coopérateurs que Dieu a voulu, que Dieu a établi, pour que le monde croit qu'il est vraiment sauvé et que vraiment, maintenant, le Seigneur vient. Ainsi soit.